en Inde. Bon, déjà, il faut peut-être remettre un petit peu le cadre, je dirais, dans lequel ça s'inscrit, la raison pour laquelle je suis parti. La première raison, c'était bien sûr que j'avais entrepris des études de sanskrit et puis de hindi. Je m'intéressais, enfin, oui, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. C'est que le principe, c'est que, comme un certain nombre de personnes qu'on peut encore même rencontrer maintenant, surtout à l'âge de 20 ans, il y avait une certaine aspiration ésotérique. Et puis j'étais tombé notamment sur 2-3 livres de yoga, etc. Puis à partir d'une approche relativement mystique, un petit peu léger, New Age, etc., j'en étais venu à m'intéresser un petit peu à tout ce qui touchait à l'Orient. Et puis, c'est vrai que la partie indienne m'avait relativement intéressé. Et puis ensuite, en arrivant à l'université, ça avait été la prise de contact avec une version beaucoup plus scientifique, en fait, de l'approche des sciences qui s'occupent de l'Inde, et puis notamment le sanskrit qui permettait de faire un lien, en fait, très intéressant entre, je dirais, une expérience très scolaire et très, très technique, notamment que j'avais rencontré dans le grec ancien et le latin, puis d'un côté, une aspiration plus personnelle sur le plan d'une certaine foi mystique, etc. Et puis, effectivement, je me suis très bien trouvé là-dedans. Puis après, quand même, au cours des études, je me disais que l'expérience uniquement l'ivresse des choses était certainement insuffisante, et puis que ça faisait quand même partie presque de mes obligations morales que d'aller une fois voir à quoi ressemblait l'Inde réelle, aussi dans sa modernité, et puis avec l'idée que, faut pas trop que je bouge, avec l'idée que, ouais, il y avait une certaine modernité qui s'était inscrite, et puis qui correspondait certainement pas du tout à l'image que je pouvais avoir relativement, là aussi quelque part scolaire, parce que dans la plupart des textes, notamment sanskrit, il y a une division très protocolaire au niveau des castes, au niveau des, qu'est-ce qu'il y a encore, des différentes étapes de la vie, notamment du brahman, etc. Puis ça, c'est des notions qui sont très formalisées dans les textes, et puis après, il faut voir dans la réalité comment ça se passe. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tomber un petit peu sur. J'avais un ami assez proche qui, justement, est toujours partant pour. Lui, c'est vraiment intéressant, encore beaucoup plus que moi à l'Inde, puisqu'il maintenant est en train de faire sa thèse dans ce domaine-là. Et puis, il avait planifié avec une autre personne qui étudie aussi le sanskrit, un certain. Et puis, c'est vrai que j'ai pu plus ou moins m'inscrire dans ce projet-là pour partir justement 5 semaines en Inde. Les deux autres l'ont couplé avec une partie d'études de la langue. Ils ont fait un stage linguistique en fait, à Rishikesh. Et puis, moi, je les ai seulement rejoints pour la partie voyage. Et puis ensuite, bien sûr, dans ce qu'il y a de fort, je dirais, dans ce genre d'expérience. Alors bon, c'est vrai que là c'était particulier parce que au niveau du groupe qu'on était pour aller faire ce voyage, on n'était pas des gens qui se connaissions très très bien à la base, je dirais même pas du tout sur le plan vraiment personnel et de la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que il y a eu d'emblée plusieurs chocs culturels, autant sur notre propre groupe, puisqu'on avait planifié de commencer notre voyage ou notre périple par un séjour dans l'Himalaya, à plus de 5000 mètres. En plus, on avait des visions très ambitieuses, puisqu'on voulait directement faire du trekking, alors que à peu près, notamment 2 sur 3 d'entre nous n'avions aucune expérience, ni de la vie sous tente, ni de la cuisine, etc. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a fait une fameuse première soirée. Non, après, on s'est d'abord retrouvé à Rishikesh où ils avaient fait leur stage. Mais quand on s'est retrouvé vraiment à devoir construire notre voyage nous-mêmes, c'était au bord du Spiti, un fleuve qui coule à 5000 mètres d'altitude. Et puis, on a passé cette fameuse première nuit sous tente, avec plusieurs expériences relativement fortes, puisque on avait planifié de cuire. Du riz qu'on avait emporté avec un réchaud à gaz qu'on avait aussi emporté. La seule chose qu'on n'avait pas mesurée ou pas pensée, c'est que l'eau de la rivière était volcanique. Donc il y avait plein de substances en suspension à l'intérieur de l'eau. Donc on est parti du principe qu'il suffisait de la faire décanter pour améliorer la situation. Puis en fait, quand on a commencé à faire ça, on a vu qu'on n'arrivait pas à éliminer, ce qui fait qu'on a cuit quand même notre eau avec une eau, enfin notre riz avec une eau relativement noire. Puis la deuxième expérience, c'est qu'on avait oublié le sel, donc finalement notre premier repas était relativement catastrophique. Alors ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais en fait, l'expérience de l'Inde, elle est essentiellement infrastructurelle. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, le plus choqué. Me permet quand même de boire un peu. Et puis, effectivement, ça ensuite, ça a continué. Bon, on a réussi quand même à passer une bonne soirée, même s'il y a eu deux, trois tensions entre les membres du groupe, parce que quelque part, on se retrouvait dans un univers relativement hostile. C'est vrai que le sentiment de se trouver là au milieu de ces pierres, finalement, c'est comme les Alpes, mais encore plus en éloigné, puis où on se dit qu'on n'a même pas forcément un accès à un chalet d'alpage au cas où il y aurait vraiment un problème, etc. Donc, on savait qu'on pouvait entre guillemets que compter sur nous-mêmes. Bon, d'un côté, on se rend compte aussi qu'on arrive à survivre. Ça, c'est pas la question de la vie, c'est la question du confort, c'est ce genre de questions. Puis en tant qu'Européens, forcément, on a beaucoup de questions de ce point de vue-là, beaucoup d'habitudes qu'on ignore. Et puis une fois qu'on se retrouve confronté réellement à la situation, c'est là qu'on prend la véritable mesure certainement de tout un bienfait dont on bénéficie au quotidien sans s'en rendre compte, et puis qui tout d'un coup s'avère très important par son manque justement là-bas. Et puis le deuxième élément important aussi, c'était que le lendemain, toujours dans la même nuit, donc c'est vraiment la nuit fondamentale, on s'est fait réveiller par des chiens errants qui aboyaient, dont on n'a pas su du tout pendant longtemps si on allait être dévoré ou si on allait simplement les voir partir. Et puis bon, effectivement, ils se sont approchés de la tente, ils ont reniflé, ils ont tourné tout autour, mais on n'est pas sorti. On s'est dit, bon, on sait pas, parce que tout d'un coup, que ce soit des chiens qui aient de la rage, ou enfin, il y a plein d'idées qui passent. En plus, on ne sait pas si c'est des chiens agressifs. Je crois pas que les chiens en Inde soient spécialement agressifs, mais c'est vrai qu'en général, c'est des chiens qui se déplacent en meute, qui retrouvent leurs habitudes standards, parce que les Indiens n'ont pas l'habitude d'avoir la domestication du chien. Ouais, c'est vrai que les animaux domestiques, de manière générale, c'est pas trop leur truc. Donc ils ont toujours plein d'animaux partout. Les vaches, bien évidemment, mais les chiens, on n'en a jamais vu. Mais après, toute la série des gallinacés, les poules, les oies, enfin différents types d'animaux se trouvent dans la rue. Mais voilà, ils les éduquent pas forcément, et en tout cas pas les chiens. Ce qui fait que là, ils ont même en général des attitudes relativement hostiles par rapport à ces chiens. Donc j'imagine qu'à la base, ils ont surtout peur des hommes. Mais bon, on ne sait jamais comment réagit un chien. Et puis bon, il y a quand même suffisamment d'histoires dans les jours, même maintenant, pour faire comprendre que oui, quand c'est des chiens inconnus, on doit se méfier. Alors voilà, finalement, on a pu sortir quand ils sont repartis. Et puis après, a commencé finalement notre véritable voyage en Inde. Puisqu'après, on a fait quand même quelques jours dans cette région du Spiti. Et puis, bon, il y a eu des événements assez phénoménaux dans ces hauteurs. On est notamment arrivé à un moment donné sur un... Ça marche toujours. On est arrivé à un moment donné sur un plateau. Alors aussi, à peu près à 5000 mètres d'altitude, un plateau au milieu, il faut s'imaginer vraiment, oui, des montagnes dont la structure est encore plus vaste ou à plus grande échelle que les Alpes. Et puis tout d'un coup, il y avait un groupe d'une quarantaine de personnes, essentiellement des hommes, oui, que des hommes, des Indiens, qui étaient en train de jouer au cricket. Au milieu de nulle part, il y avait, bon, on avait dormi dans un hôtel, enfin dans une espèce de, on pourra dire, une étape de montagne aménagée pas très loin, donc à peut-être 3-4 km à pied de l'endroit où on était. Donc c'était un endroit qui était quand même un peu fréquenté, mais on était quand même surpris de voir que finalement dans ce milieu apparemment hostile, bah, c'était quand même essentiellement des chemins sur des pentes de pierre, hein, parce que c'est une hauteur où forcément la végétation est relativement peu présente. Et puis là, tout d'un coup, il y avait une espèce de prairie, et puis ces gens qui jouaient au j'ai dit quoi, cricket? Non, pas cricket. Oui, au baseball. C'était le baseball, c'est juste. Et puis, une autre chose aussi qui était particulière, c'est quand on est redescendu, on a fait justement quand même ce trekking par étapes, mais on a renoncé bien sûr à la nuit sautante à partir de la première expérience. Et là, on est arrivé une fois sur un monastère qui était aussi perdu dans les montagnes. Bon, il ne faut pas oublier que dans la région de l'Himalaya, en fait, la structure ou la mode ou le genre de, comment dire, ouais, le genre de culture qui est présente ne correspond pas tout à fait à celui du reste de l'Inde, puisqu'on est déjà avec une tendance tibétaine. Donc ça veut dire que là, c'était un monastère de moines bouddhiques, donc pas la religion de l'hindouisme comme pour le reste de l'Inde. Et puis, on est arrivé vraiment, c'était intéressant, parce que c'était une descente sur... le long d'une falaise où il y avait des espèces de marches aménagées, donc vraiment on n'est pas tombé, et on avait vraiment sur un tertre en contrebas, peut-être une centaine de mètres en contrebas, l'apparition de ce temple qui était absolument phénoménal, comme une sorte de petite ville forte, genre Mont-Saint-Michel, mais avec bien sûr une architecture bouddhique tibétaine. Et puis on est arrivé devant ce monastère, puis là on a reçu même l'aumône de la part des moines, donc ils nous ont servi une espèce de goûter avec des biscuits, puis du lait de yak, je sais pas trop quoi. Et puis c'est vrai que ça, c'était ce genre d'expérience relativement ouais, assez décapante, parce qu'on se retrouve vraiment quand même dans des, ouais, face à une culture qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre, et puis des structures aussi qui sont très différentes, puisque notamment c'est principe de l'aumône avec des moines qui vivent encore vraiment en communauté. On dira que chez nous c'est en grande partie disparu. Ça existait encore il y a peut-être une cinquantaine d'années chez nous, mais maintenant ça fait partie des structures qui sont vraiment révolues. Et c'est vrai que là c'était très bizarre de se retrouver là-dedans. Puis bon, le reste du voyage en Inde, j'ai toujours été très intéressant, à la mesure où on avait bien sûr il y a toujours une forme d'insécurité, parce qu'on se dit toujours, oui, on ne sait pas trop comment utiliser son temps, on voyage beaucoup d'un endroit à l'autre. C'est clair que la beauté de ce que l'on fait ou de ce que l'on vit, enfin, oui, ce qui manque finalement le plus dans ce genre de voyage, c'est peut-être le faire. Les instants les plus enrichissants ou les plus pleins que j'ai vécu, c'était justement paradoxalement en faisant par exemple d'un coup de la montagne sur un tertre perdu au milieu d'une plaine, parce que finalement on se retrouvait là à avoir une activité peut-être qui correspondait plus à ce qu'on faisait avant. Aussi une fois une rencontre avec un musicien à Bénarès, c'était aussi en guillemets un petit peu intéressant, parce qu'on a eu une expérience où on se retrouvait à participer un peu à une vie active. C'est vrai que sinon, contempler, parcourir des paysages, on a fait quand même beaucoup de passages de ville en ville, tous les à peu près avec une cadence de 3 jours pour chaque déplacement. Donc c'était assez astreignant d'une certaine manière. Puis d'un côté, c'était la condition sine qua non pour en voir le plus possible. Et puis c'est vrai que, bah, comme en Europe d'ailleurs, dans un lieu donné, une fois qu'on a passer 3-4 jours dans une ville, après on se dit qu'on a gentiment fait le tour. Disons, après, l'autre perspective possible serait été bien sûr de vraiment rentrer dans un projet particulier, mais là pour aussi peut-être davantage rentrer en interaction avec les gens sur place. Ce que Sébastien d'ailleurs fait maintenant depuis qu'il a commencé sa thèse, puisqu'il a là des contacts avec des gens qui s'intéressent au mouvement nationaliste indien. Notamment dans les différents milieux ou lieux qu'on a quand même vu ou pu fréquenter, c'était intéressant de voir que par exemple il y avait certains endroits qui s'appelaient Pushkar au bord d'un lac. C'est dans la région, je crois, pas très loin de Bénarès, entre Bénarès et Delhi plus ou moins. Et là c'était un des milieux avec Goa que moi je n'ai pas spécialement visité, qui se trouve lui au bord de la mer, mais qui fait partie de ces milieux justement 68 heures où je dirais les premiers Européens ont découvert toute la science du cannabis et d'autres substances, enfin pas spécialement le cannabis, je crois que c'est, je sais pas, enfin toutes les substances hallucinogènes. Ça a commencé avec Henri Michaux à l'époque de la littérature. D'ailleurs, lui, c'est aussi dans un voyage en Inde qu'il a fait la connaissance avec ce genre de substances. Et puis, bon, bah, depuis, il y a une tradition qui s'est effectivement répandue en Inde, où effectivement, les gens ne vont pas pour boire de l'alcool, parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve très peu, même la bière, en plus, elle n'est pas spécialement bonne. Mais par contre, effectivement, tout ce qui a à voir avec les substances illicites et hallucinogènes, ça se rencontre beaucoup. Et on avait, typiquement à Pushkar, un résident qui nous a qui était le patron guillemets, de l'hôtel où on était, qui nous a proposé aussi deux, trois choses qu'on n'a pas spécial, auxquelles on n'a pas spécialement goûté, mais disons qui étaient visiblement dans une sorte de prédisposition de choses tout à fait attendues de la part des touristes. Et puis c'est là aussi qu'on a peut-être rencontré le plus d'étrangers. Donc presque un peu une sorte de colonie européenne, mais qui m'a fait beaucoup penser justement, auquel m'a fait beaucoup penser le film Welcome, Very Well, Welcome Hotel, que j'ai été voir cet été, qui est justement un film en relation avec tout ce mouvement justement des Européens qui, par un espèce de mysticisme ésotérique, une recherche personnelle, souvent pas désespérée on peut dire, mais c'est désespérant dans la mesure où on se rend compte que la tradition européenne ne donne pas de réponse ou ne donne plus de réponse à des gens et que ces personnes vont justement quelque part, pas dire perdre leur âme, mais disons faire une espèce de tentative d'appropriation non légitime d'une culture qui n'est pas la leur, et puis qu'en plus on prépare ou qu'on préfabrique et qu'on configure pour eux. Et c'est vrai que à Pushkar, on a rencontré quelques-uns de ces personnes, que je respecte dans la mesure où c'est des gens qui ont une grande ouverture d'esprit. Il y a dans le mouvement 68art un souffle, oui, justement, de la rencontre, peut-être aussi un aspect valorisant de l'individu qui est chouette, mais qui n'a effectivement rien à voir avec la culture réelle qui est en Inde, qui elle est beaucoup plus traditionnelle. Je me souviens notamment quand on avait fait un petit séjour à Bénarès, notamment, où là on avait vu des gens qui venaient en famille faire des achats de vêtements, parce que Bénarès est assez bien connu pour sa fabrication de vêtements, de tissus. Bon, je dirais même une grande tradition dans l'ensemble de l'Inde, mais Bénarès fait partie des hauts lieux de ce point de vue-là. Et c'était marrant de voir que là, c'était des déplacements vraiment très familiales, et puis on avait familiaux. Et on avait une démarche très, très intéressante pour rencontrer là, ou voir plutôt comment fonctionnaient les gens sur place, qui sont des gens très pragmatiques en général, et puis une organisation sociale très stricte qui n'a justement rien à voir avec cette espèce de pseudo-laisser-aller, ce mythe européen qu'on a construit en Inde en fait. Parce que c'est ça qui est paradoxal. Bien sûr, il y a l'idée fondamentale, quand on lit un petit peu la littérature, surtout bouddhique plutôt qu'hindouiste, d'une espèce de fusion de l'atman avec le brahman, donc une vision moniste de l'existence, où on n'a pas cette dualité Dieu et diable, comme ça peut être le cas dans la métaphysique européenne, ni d'opposition entre la matière et l'esprit, une vision beaucoup plus, de ce point de vue-là, effectivement beaucoup plus globale. Mais par contre, en fait, la réalité sociale, elle est presque à l'opposé. Et c'est intéressant aussi de voir que même il y a ce même décalage structurel dans les textes, par exemple, sanskrit de la tradition, où on rencontre, en fait, d'un côté, des textes très métaphysiques, avec une vision autant d'abord mythique dans les Védas, puis ensuite extrêmement philosophique dans les Upanishads, mais qui sont avec des notions très abstraites, où les dieux ont rapidement des vertus et des qualités conceptuelles, et une expression, une forme d'expression aussi en sanskrit très, je dirais, très, là aussi très abstraite, avec beaucoup de nominalisation, etc. Ce qui fait qu'on a toujours cette impression qu'on est dans des substances, on est vraiment dans la métaphysique de grande envolée. Et paradoxalement, la langue, elle est très technique, elle est très structurée, avec une structure mécanique précise. J'ai l'impression que des fois, il y a un peu ce même décalage entre une structure sociale très réglée, bien sûr qui fait toute l'essence du cinéma bollywoodien, puisqu'on parle toujours que de shadi, de mariage, et il y a cette vision entre mariage entre castes, possible, pas possible, etc., avec des questions à n'en plus finir, finalement, comme si l'entièreté de la vie des Indiens se déroulait sur ce genre de tension-là. Et puis d'un autre côté, il y a cette métaphysique qui sous-tend l'ensemble de la pratique sociale, qui elle est totalement l'opposé, extrêmement justement métaphysique, où ouverte. Et ça, c'est une spécialité de l'Inde. On a l'impression que c'est cette ouverture d'un côté qui permet aux Indiens d'être sur le plan technique, mais effectivement parmi les meilleurs informaticiens du monde, parce qu'ils ont ce paradoxe. Et puis même dans la gestion des objets, il y a aussi une tradition très particulière. L'idée de pureté, par exemple, est très inscrite dans la tradition religieuse indienne, d'où la purification dans le Gange, etc. Alors que paradoxalement, la manière dont ils maintiennent la véritable pureté, ce que nous on appelle l'hygiène, alors cette version-là, au niveau de l'organisation sociale, elle n'est pas du tout présente. C'est un des pays certainement les plus sales au monde. Il n'y en a pas. Disons, entre la pollution, entre la gestion tout simplement de la propreté des restaurants où on est allé ou de nombreux endroits, c'est carrément, on pourrait dire, une des notions qu'ils n'ont encore pas totalement. Je pense maintenant ça a peut-être déjà changé parce que je sais que ça change très très vite actuellement, mais il y avait des notions qui n'étaient pas forcément présentes. Et certains de ces paradoxes-là sont très révélateurs. Après, c'est vrai que c'est un peuple non violent, ça c'est non violent, relativement pas voleur. Je crois que les seules heurts qu'il y a sont plus à l'interne entre les Indiens musulmans et les Indiens hindouistes. Moi j'ai presque toujours eu la tendance d'expliquer que le problème de la violence chez les hommes venait du monothéisme, dans la mesure où effectivement le monothéisme implique en général le prosélytisme. Et puis à partir de là, les musulmans sont de toute façon certainement plus facilement la cause des problèmes dans les tendances. Ce n'est pas du tout une question de préjugés, mais ce que je constate, ben c'est clair que les musulmans sont arrivés en Inde, ce n'est pas les Indiens qui sont arrivés en Arabie, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai qu'au niveau traditionnel, ça c'était une chose qui m'avait frappé quand on avait abordé je dirais les sciences indiennes, c'est que les Indiens ne n'ont jamais émigré. C'est un peuple qui était relativement stable. Alors c'est clair, eux sont à la base, bien sûr, des descendants, pour une partie des descendants des troupes aryennes, mais qui se sont installés en 2000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, en Inde. Mais à partir de là, il y a quand même toute une construction sociale qui est très stable. D'ailleurs, le terme Stan, qui désigne le pays qu'on trouve en Pakistan, Hindustan, etc. D'ailleurs, eux ne l'appellent pas l'Inde, mais Hindustan. Ce qui désigne le pays, ça vient du verbe stehen, enfin c'est la même racine que de se tenir debout. Donc il y a cette idée vraiment de stabilité qui est omniprésente. Tandis que c'est vrai que toute la tradition, autant musulmane que chrétienne, qui vient justement des juifs à la base, c'est un peuple au contraire, lui, nomade, errant, qui est toujours en déplacement, toujours en mouvement. Et je crois que ces deux différences-là fondamentales sont gigantesques pour la signification du pays. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'en Inde, on n'a jamais ce sentiment d'être menacé. Bien sûr, je l'ai vécu au niveau des moments forts, la première arrivée à l'aéroport de New Delhi, un soir à 1h du matin. Et puis là, je me suis retrouvé embarqué dans un taxi un petit peu, on ne peut pas dire ni contre mon gré, ni avec mon accord total. Et puis ces personnes m'ont tout d'un coup fait débarquer justement à 1h30 du matin dans une espèce de une pseudo-agence de voyage. Et puis, quelque part, ils voulaient forcément que je demande qu'on fasse quelque chose pour moi, puisque de toute façon, visiblement, leurs intérêts étaient quand même essentiellement financiers. Mais c'est vrai que cette situation, je n'étais pas pris en otage non plus, mais j'ai senti qu'il y avait un respect commercial, si on veut, de leur part. Mais c'est clair que j'étais quand même vivement sollicité. Puis après, finalement, moi, j'ai demandé pour être amené à Rishikesh en taxi. Et puis, ça m'a coûté très cher, beaucoup trop cher. Mais disons, dans l'expérience, c'était très constructeur. Parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en Inde et qui font, ou bien dans d'autres pays aussi, et qui font en fait les véritables expériences, notamment l'expérience du commerce. Ça, c'est aussi quelque chose que, en fait, on ne peut pas dire que dans les pays européens, on ne fait pas de commerce si on n'est pas dans le milieu commercial, mais il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que commercer, ça veut dire mettre en rapport direct avec une personne qui va nous vendre un objet, le prix de l'objet, le prix intrinsèque, en guillemets, une certaine valeur marchande, avec un désir ou un projet. Et finalement, le montant final du prix va correspondre à cette espèce d'équilibre entre les deux. Or, ce qui est fortement particulier, je pense qu'en Europe, en fait, le vrai commerce est devenu un luxe. C'est-à-dire qu'il faut aller dans une vraie boutique avoir affaire à un marchand qui lui va donner un conseil si on va acheter par exemple une voiture ou des grands objets. Alors là, en Europe, on se remet à commercer. Ce qui est assez paradoxal en Inde, c'est que même pour un petit bibelot, un pendentif, etc., on va faire du commerce. Moi, j'ai négocié une fois, là c'était dans le Rajasthan, alors justement, typiquement encore une autre région de l'Inde, beaucoup plus. Alors culturellement beaucoup plus développé parce que c'est justement musulman. Enfin, ça a été habité par les Moghols, alors la structure est différente. Et là-bas, je me suis trouvé à négocier pour un jeu d'échecs qui est toujours ici d'ailleurs. Et c'était marrant parce que là, j'avais déjà compris certaines choses et j'étais passé d'un commerçant à l'autre et j'avais en fait décelé qu'ils se refilaient ou ils se passaient le même jeu. Parce que moi, j'essayais de faire descendre les enchères en passant d'un commerçant à l'autre, en disant à l'un, voilà, il y a tel autre, m'en a offert tant, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'on parlait toujours du même jeu, et puis qu'il passait d'un commerçant à l'autre. Ça, c'était très intéressant parce que en Europe, forcément, la profusion est tellement grande, le système est tellement industrialisé, automatisé, qu'on ne parle jamais des objets. En fait, on parle d'une marque, on parle d'un prototype, on parle ouais, de quelque chose qui est défini par un certain nombre de critères et produit par une certaine maison. Puis encore, la maison, des fois, c'est même pas forcément important, puis on ne sait surtout pas toujours qui c'est. Et puis ensuite, on arrive et on a affaire à des articles. Les magasins sont vides, en fait. Il n'y a plus vraiment d'âme si on va à un Interdiscount, par exemple, si je pense à ça, ou Migros pour l'alimentaire, etc. En général, on a déshumanisé nos magasins. Alors qu'en Inde, finalement, la relation avec le commerçant va être primordiale. Donc à partir de là, moi j'avais vécu ça, je sais plus, c'était pas Pushkar, pas Benares, mais un autre village encore, enfin, une petite ville dans cette région, assez touristique aussi. Et là j'avais discuté une fois, je crois que c'était pour un pendentif ou quelque chose comme ça, avec un commerçant. Et je sais plus, on avait discuté un petit peu en anglais en disant, mais. Je lui avais demandé, ouais, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à proposer? Et la première réponse qu'il m'avait donnée, c'était, c'est à vous de me dire ce qui vous intéresse. On était déjà dans quelque chose de très intéressant parce que, en fait, il y avait un véritable ouais, rapport aux choses. Je dirais, dans la réalité européenne, on a quand même beaucoup ben, notre quotidien, une certaine forme d'ornementation, mais le fait qu'on ne nous pose jamais la question fait que les gens, ma foi, vont vers une certaine forme de réalité extérieure et puis se l'approprient d'une certaine manière avec des projets ou des imaginations, des désirs qui naissent en eux de manière un peu spontanée, mais sans vraiment je dirais peut-être le passer au fil de la critique. Alors que le commerçant, finalement, et c'est ça qui est intéressant et qu'on retrouve effectivement dans les bons magasins, si on a acheté un complet chez un tailleur ou bien effectivement une voiture, tout d'un coup, il y a cette question du commerçant qui dit, mais vous voulez faire quoi de votre objet? Quelles sont vos attentes, vos besoins, etc. Et une fois qu'on commence à formaliser ça, c'est étonnamment, ouais, on se rend compte que le commerçant devient un conseiller. Et puis, c'est étonnamment des expériences qui sont en fait tellement triviales dans l'existence et que beaucoup d'Européens vont jusqu'en en Inde pour les faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça. D'autres, moi je sais que le deuxième trend, si on ne vient pas à l'Est en Inde principalement, ça sera en l'Amérique du Sud. Je pense que beaucoup de gens vont faire un peu des expériences similaires dans ce domaine-là. Bien sûr, les choses que je n'ai pas faites, c'est dormir chez l'habitant, c'est peut-être, je sais pas, m'occuper d'un troupeau, je ne sais pas, ce genre de choses-là. Parce que là aussi, quelque part, on voit que cette expérience des pays en voie de développement, bon, mais ils sont bientôt de toute façon tous développés, de toute façon, mais c'est dans ces pays-là, c'est vrai que c'est souvent une opportunité pour des Suisses ou des Européens, souvent même d'ailleurs sururbanisés, de se retrouver dans un contexte qui les met face à des réalités beaucoup plus concrètes, et puis de faire leurs expériences, aussi dans un espace où quelque part ils sauront qu'ils ont peut-être moins de choses à rendre à personne, puis c'est pas un engagement à durée déterminée, enfin c'est justement c'est un engagement à durée déterminée, et ça je pense que c'est aussi après ces primeurs thèmes. Donc c'est devenu en fait un espace de jeu et d'expérimentation, d'exploration de soi. Bon, En soi, c'est vrai que le voyage a toujours ce caractère-là, mais c'est clair que par rapport à un voyage de détente, comme la plupart des gens l'imaginent, dans des lieux de, comment dire, des lieux de balnéaire ou comme ça, là on est dans une autre démarche. J'imagine que c'est bon, 20 minutes tout de même.